Et à 15h44 minutes, c'est le moment de retrouver Lynn Koenig, comptable professionnel agréé et bien sûr qui dirige son entreprise Gestion K pour nous donner des conseils sur nos finances. Lynn Koenig, bonjour.
Bonjour Sébastien, ça va bien?
Très bien. Et là, c'est un peu une liste d'épicerie qu'on fait aujourd'hui.
Ouais.
Mais on parlera
ouais.
pas d'alimentation, mais bien de logement.
Exactement. J'ai envie là de juste semer la puce à l'oreille aux gens qui écouteraient, peu importe leur situation, sur certains programmes là, qui existent, qui peuvent être un atout là, dans leur gestion financière liée à l'habitation.
OK. Donc, habitation, c'est au sens large. Est-ce qu'il y en a autant pour les locataires que pour les propriétaires?
Il y en a pour tout le monde.
Okay.
Donc, il y en a pour tout le monde, puis il y en a selon les situations de la vie qui nous arrivent également. Donc, peut-être distinguer là, deux catégories d'aide financière. Il y a des programmes, puis des crédits d'impôt. Hein, les crédits d'impôt, ça, je vais en parler souvent avec toi, Sébastien.
Mm-hmm.
Tu vas devenir bon là-dedans à la fin de la saison. Je vais commencer par des programmes. Il y a deux organismes, surtout là au Québec. Il y en a d'autres. Il peut y avoir des programmes ponctuels, mais il y a la Société d'habitation du Québec, puis il y a Hydro-Québec qui vont offrir certains programmes d'aide financière sur des situations qui ont attrait à notre logement, que ce soit notre appartement qu'on loue ou notre propriété.
OK.
La Société d'habitation du Québec, souvent, ça va être des programmes là pour les familles à plus faible revenu ou dans des situations particulières comme pour de l'adaptation de domicile. Donc, il y a un programme qui s'appelle le programme allocation logement. Ça va s'adresser à des familles à faible revenu qui ont une relation entre le coût de leur loyer ou de leur paiement hypothécaire, parce qu'on peut être propriétaire ou locataire puis avoir des besoins financiers. Si notre loyer, notre coût pour se loger finalement est trop élevé par rapport à notre revenu, c'est une source qui peut nous aider à défrayer là, jusqu'à concurrence de 100 $ sur nos obligations financières liées au logement mensuellement.
Donc, c'est vraiment relié au pourcentage de notre revenu qu'on met dans notre habitation.
Ouais, à titre okay. d'exemple, là, une personne seule ou une personne seule de 50 ans et plus, une personne avec seule avec un enfant, peu importe l'âge, à partir du moment où elle a un seuil de revenu inférieur à peu près 20 000 $, peut être admissible à un crédit, à une aide financière d'une centaine de dollars par mois pour payer une partie de son loyer.
Okay.
À titre d'exemple.
Ça, c'est pour la Société d'habitation du Québec.
Oui. La Société d'habitation du Québec va aussi offrir des programmes, on entend ça via nos MRC, notamment notre MRC chez nous qui annuellement, là, je ne sais pas s'il y a des programmes en ce moment d'ouvert, je ne suis plus connectée au quotidien, mais toutes les MRC du Québec offrent à travers la Société d'habitation du Québec, selon un calendrier annuel là, qui n'est pas toujours le même à chaque année, des programmes, la Société d'habitation du Québec transige sur les territoires par les MRC, des programmes qu'on appelait communément Réno-Région. Le nom peut évoluer là, d'année en année. Des programmes d'adaptation à domicile pour des gens qui auraient des besoins particuliers suite à une situation de handicap. Donc ça, c'est des programmes là aussi qui existent pour les personnes dans le besoin. Ensuite, Hydro-Québec qui offre des programmes qui sont souvent pour moins, pas nécessairement les moins bien nantis, des fois bien au contraire, mais qui vont faire des investissements qui sont liés à l'économie d'énergie. Donc, ça, souvent, c'est pour les gens qui sont propriétaires ou les propriétaires d'immeubles locatifs. Bien, on peut avoir de l'aide financière de programmes Rénovaire, Réno-Climat. Je ne vais pas toutes les nommer parce qu'ils sont,
il y en a beaucoup.
De passage et ils varient. Là. C'est des programmes qui sont évolutifs pour des travaux d'isolation, des travaux d'étanchéité, remplacement de portes et fenêtres, thermopompes, des trucs comme ça. Donc, faut pas oublier, quand on fait des travaux de cette nature-là en rénovation de nos bâtiments, on a de l'aide financière. Très, très souvent, c'est rare là, qu'il n'y ait pas un de ces programmes-là qui roule, là, qui peut nous aider.
Donc, si on a l'impression que ça va nous faire économiser sur notre facture d'électricité, on se tourne vers Hydro-Québec, il y a peut-être un programme qui correspond à ce qu'on fait. Là.
Exactement, Hydro-Québec, par souci environnemental, qui offre de l'aide financière à travers des programmes de cette nature-là. Ensuite, on tombe dans les programmes, en fait, pas dans les programmes, dans tout ce qui est fiscalité, crédit, parce que ce que je viens de vous nommer là, c'est pas nécessairement des choses que vous allez demander à travers vos rapports d'impôts.
Non, ça, il faut faire une demande spéciale à un moment ponctuel dans l'année.
C'est des programmes particuliers.
Okay.
C'est des programmes particuliers avec les organismes, des formulaires spécifiques à remplir qui sont pas nécessairement liés à Revenu Québec, là, par exemple.
OK, parfait. Donc là, on tombe maintenant dans la catégorie crédit d'impôt en lien avec notre déclaration de revenus qu'on fait une fois par année.
Exactement. Là, on a une autre petite liste d'épicerie. Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation. Donc, si on achète une première habitation, il y a une certaine liste de conditions à remplir. On peut aller retirer, combiné là, au gouvernement fédéral et provincial, 1 500 $ l'année de l'achat d'une première habitation. C'est quand même intéressant.
Mm-hmm.
c'est un petit peu la mise de fonds qu'on a remis sur notre première propriété. Ça, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir de l'impôt à payer. Ça va venir réduire notre impôt à payer.
OK.
Ensuite, si on a besoin de faire la mise aux normes d'installation d'assainissement des eaux usées résidentielles, donc les fameux champs d'épuration, on en a beaucoup là, dans nos territoires parce que la majorité, il y a une grande partie de nos territoires qui ne sont pas couverts par des réseaux d'égouts aqueducs. Donc, bon, évidemment, il faut que ce soit des travaux reconnus, nécessaires, faits par un technologue. Et bon, c'est pas parce que moi, j'ai décidé de faire un petit peu d'excavation autour de ma maison que je vais être admissible. Il faut qu'on soit reconnu. C'est un crédit d'impôt remboursable qui va rembourser jusqu'à 20 % du montant qui excède 2 500 $ de nos dépenses. Donc, c'est quand même...
Ça peut être très intéressant.
Ça peut être intéressant, les gens qui ont besoin d'agrandir ou de rénover pour des fins environnementales. Là, pas pour, il ne faut pas que ça soit parce que ça nous tente. Là, il faut qu'il y ait une connotation vraiment de protection. Il y a un lien protection de l'environnement. Donc, il faut que ce soit une habitation admissible. C'est pas tous les chalets qui sont admissibles, par exemple. Les résidences principales sont plus facilement admissibles. Mais bon, sachez que si vous avez des investissements à faire là, il peut y avoir des économies d'impôts intéressantes à aller chercher.
Au moins, on le saura, puis on pourra aller faire les vérifications. Là.
Exactement. Un autre petit truc, si on a à déménager pour se rapprocher d'un nouveau travail. J'imagine que tu en as peut-être déjà entendu parler, Sébastien, mais si on a à déménager pour se rapprocher d'un nouvel emploi, si on se rapproche de plus que 40 km d'un nouvel emploi, il y a plusieurs frais qui peuvent être réclamés au niveau de l'impôt et qui peuvent nous faire économiser là, pas mal de sous sur notre facture d'impôt. Les frais de déplacement de la famille, pour un montant raisonnable, là, il y a un encadrement de tout ça, évidemment. Les frais de transport d'entreposage de nos meubles, les frais de repas et logement pour la famille près de l'ancienne et de la nouvelle résidence pour des périodes d'à peu près 2 semaines à chaque endroit. Si on a eu à résilier un bail pour déménager pour un nouvel emploi, si on a eu des frais de subsistance de notre résidence pendant une certaine période, bon, j'ai déménagé pour occuper un nouvel emploi à Maniwaki, mais j'avais une maison à Mont-Laurier, puis je ne l'ai pas encore vendue, puis là, ben ça m'a coûté des taxes municipales, ça m'a coûté du chauffage, ça m'a coûté une certaine période de temps pour laquelle on peut déduire ces dépenses-là au niveau de notre impôt. Et toutes sortes de frais administratifs là, liés au déménagement jusqu'aux frais légaux de notaire, par exemple, quand c'est dans le but de gagner un revenu, donc d'occuper un nouvel emploi, sont des dépenses là, qu'il faut garder bien près de nous et dire à notre comptable, à notre prochain rapport d'impôt.
Tu disais 40 km, donc c'est pas si loin que ça, là. Ça se gère bien. C'est pas des emplois qu'on change de région nécessairement, là.
Pas nécessairement, absolument. Sauf que si je choisis de me rapprocher puis que ça fait longtemps que j'habite à 45 km puis que je décide de déménager à 35 km, si j'ai pas un motif de changement dans ma vie ou de changement d'emploi, ça sera pas nécessairement admissible. Là, il faut faire
mais un nouvel emploi, on devrait avoir plus de chances de rentrer dans les critères.
Oui, absolument. Donc là, moi, c'est une liste d'épiceries, là, pas nécessairement exhaustive. Il peut y avoir d'autres programmes d'aide financière, mais je voulais lancer là, en rafale des petits mémos là, aux auditeurs parce que, comme tu le vois, dans plusieurs qu'on soit propriétaire, locataire, à faible revenu ou pas, il y a fort probablement, dans ce que je viens de nommer, quelque chose qui nous arrive un jour ou l'autre dans notre vie et on pourra avoir accès à ces crédits d'impôt-là.
Bon, on ira faire quelques recherches sur Internet la prochaine fois qu'on aura une dépense. Il y a sûrement un programme ou un crédit d'impôt qu'on est capable de relier à ça.
Dernière chose que je veux mentionner aux gens, on me pose souvent la question, moi là, j'ai acheté ma maison il y a 20 ans, je ne l'ai pas payé cher, là, le marché s'enflamme, je peux la vendre 100 000 $ de plus que ce que je l'ai payé, je vais-tu payer de l'impôt là-dessus? Après toi, c'est quoi la réponse, Sébastien?
Oui, c'est un revenu.
Si c'est ta résidence principale, non.
Non, OK.
Tu paieras pas d'impôt.
Si c'est un chalet, par exemple, là, on va se faire ramasser. C'est ça que tu dis?
Si c'est une résidence secondaire, oui, il va y avoir un gain capital, il y a une bonne partie de ça qui va être inclus dans ton revenu. Par contre, pour votre résidence principale, jamais. On a le droit de déclarer seulement un immeuble comme notre résidence principale, évidemment. On ne peut pas en avoir 5-6, mais notre résidence principale est exonérée d'impôt, là, peu importe le prix qu'on l'a payé et le prix qu'on va la vendre.
OK. Donc, c'est un bon moment pour vendre, mais encore faut-il trouver quelque chose à se racheter. Ça, c'est un autre défi.
Absolument.
Puis ça peut être le sujet d'une autre chronique.
Absolument.
Lynn Kearney, merci beaucoup pour cette liste d'épiceries. Fort utile. Je pense que les auditeurs et auditrices ont pris plusieurs notes pertinentes puis qu'on va peut-être se garder quelques factures de côté, notamment pour ces crédits d'impôt dont tu nous parlais. Un grand merci, puis on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.